Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Et, une fois n'est pas coutume, nous allons même y consacrer deux chroniques, ne serait-ce que pour faire exister entre celle-ci et celle-là un temps, un espace, un entre où aiment particulièrement à se déployer les choses de l'amour. Sexe, rappelons-le, vient du latin « sécare » qui signifie « couper, séparer ». Oui, nous allons parler d'amour, parler des mots de l'amour, puisque la façon de nommer détermine la façon de penser qui, à son tour, organise la réalité. Et qu'il n'y a pas de raison de ne pas proposer une vision des choses différente de celle soutenue par un Trump, un Poutine ou n'importe quel beauf lambda. Après ces préliminaires, quelques secondes donc, nous allons entrer dans le sujet, introduire l'idée principale, pénétrer au cœur des choses. Puis je dirai quelques mots tendres. Non, parce que vous savez qu'il y a encore des gens qui saucissonnent l'amour comme ça, l'avant, les préliminaires donc, l'acte, la pénétration, l'après, les câlins de clôture. En d'autres termes, une sexualité véritablement centrée sur la pénétration, une sexualité où, au pénis qui pénètre, répond, comme une évidence, le vagin qui veut être pénétré. Pourquoi pas d'ailleurs ? Pourquoi pas comme une des possibilités érotiques. Mais imaginons que le sexe féminin soit le clitoris. Et patatras, qu'est-ce qui, dans l'anatomie masculine, répond au clitoris ? Bah rien. Le clitoris, organe du plaisir féminin, est sans utilité pour la perpétuation de l'espèce. Il apparaît donc comme superflu, voire suspect, voire dangereux, ce qui est confirmé par son excision encore fréquente et pratiquée même en Occident. Aujourd'hui, dans le monde, on excise 6000 femmes par jour. L'édifice de la sexualité patriarcale repose sur l'idée d'une complémentarité des sexes, un pénis, un vagin. Ou le reste, ma foi. Le reste, bah, ça vient en plus, c'est tout juste bon pour ce qu'on appelle les préliminaires, une mise en bouche facultative et plus ou moins savoureuse. Et le tour est joué. Le reste, donc. Ce n'est rien moins que le centre du plaisir féminin qui demande un peu de savoir-faire et d'attention, à mille lieues de la pénétration qui, certes, charge l'homme d'une exigence de performance, mais surtout la femme de tout un tas d'exigences pour se rendre désirable comme l'homme le souhaite, afin qu'aucune défaillance visible ne survienne. Pénétration qui ne demande à l'homme rien d'autre que de s'occuper de son plaisir sans avoir à s'attarder sur le plaisir féminin dont chacun sait qu'il est évidemment aussi capricieux et incompréhensible que le sont les femmes. Et on s'étonnera que bien des femmes n'aient pas envie de ça, qu'elles s'ennuient ou même qu'elles aient mal. On dira qu'elles ont moins de désirs que les hommes ou même moins de besoins, qu'elles sont frigides ou qu'une femme honnête ne prend pas de plaisir. Que les femmes ont des envies de pénis, on dira que le plaisir des hommes est simple et franc comme le sont les hommes, qu'il ne doit pas plus connaître de défaillance que les hommes ne doivent en connaître. Bref. On dira plein de choses idiotes qui construiront un monde, une sexualité et des vies inégales en droit et en fait. Une vision des choses où la femme est à la fois privée de son plaisir, culpabilisée de sa façon de le prendre, et tenue de procurer, dans un acte où son plaisir est nié, encore plus de plaisir à l'homme sur lequel l'acte sexuel est déjà totalement centré. Un régal. Dire que le sexe des femmes c'est le vagin, c'est mettre les femmes dans la position seconde. Celle de recevoir le pénis et de donner du plaisir, et éventuellement des enfants. On peut broder ce qu'on veut là-dessus, que la maternité c'est formidable, et ça peut l'être. Mais pas dire que la nature est ainsi faite. Non, deux fois non. D'abord, parce qu'il faut vraiment être miro pour réduire le merveilleusement pourvu sexe féminin au seul vagin. Et puis parce que, précisément, la sexualité n'a rien de naturel, sinon nous aurions des périodes de rute comme les animaux, et l'érotisme n'aurait pas lieu d'être. Non, rien de ce qui est humain n'est naturel. Être humain n'a rien de naturel. Être un bipède, oui, être humain, non. Être humain est culturel. Un être humain, c'est un être fait de langage, et selon que vous appellerez les choses de telle ou telle façon, vous entrerez dans telle ou telle façon de penser. Comme l'écrit Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Mal nommer le sexe féminin, c'est ajouter au malheur des femmes. Et comment imaginer que l'humanité soit heureuse si une de ses moitiés est malheureuse ? C'est pour ça que Carla Lanzi, dans son essai philosophique « Nous crachons sur Hegel », écrit que le sexe féminin est le clitoris. Elle sait bien que si elle dit que c'est le clitoris et le vagin, hop, on va se retrouver dans une hiérarchisation avec le gros gâteau du vagin et la petite cerise du clitoris. Je voudrais vous proposer une aventure. Tentez ici l'expérience de vous faire toucher du doigt ce que sont le masculin et le féminin. Et surtout, à quel point ces mots sont particulièrement chargés de préjugés qu'il va nous falloir un peu dépoussiérer. Vous allez voir le nombre de pièges qu'il y a là-dedans. D'abord, masculin et féminin, c'est pas homme et femme. Et pas seulement parce qu'un homme aurait des côtés féminins et une femme des côtés masculins. Non, pas des côtés. Un côté. En chaque être humain, une part d'Ulysse et une part de Pénélope. Mais féminin et masculin ne sont pas non plus synonymes de féminité et virilité, qui sont construits différemment selon les époques. Il y eut un moment où la femme à barbe était un symbole de féminité. Essayons pendant un court instant de ne pas penser au sexe. Oui, je sais, c'est pas facile. Aidons-nous un peu en pensant, par exemple, à la Chine, où existent les notions de yin-yang. Pour chaque être, chaque chose du yin-yang. L'un ne va pas sans l'autre, comme une feuille a un recto et un verso. Les choses se font simultanément, la réalité est simultanéité. Or, pour qui cherche à maîtriser la réalité, c'est bien compliqué et bien fatigant. On la saucissonne donc, et on vient calquer sur elle ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait de soi. Or, quand les instances du savoir et du pouvoir sont aux mains du masculin, et elles le sont depuis la nuit des temps, elles reflètent et organisent la vision des choses à partir de ce que les hommes connaissent, c'est-à-dire eux-mêmes. Elles infusent notre langage et donc notre représentation du rapport entre les hommes et les femmes, mais aussi entre notre masculin et notre féminin. La bonne santé vient d'un équilibre entre masculin et féminin. La médecine chinoise ne dit pas autre chose, elle qui vise à prévenir l'apparition de la maladie et non à la guérir une fois qu'elle est là. Mais le système néolibéral, par lequel la Chine actuelle a d'ailleurs été rattrapée, repose uniquement sur la domination du pouvoir masculin sur la puissance du féminin, sur un déséquilibre, au nom d'une prétendue complémentarité donc. Or, cette domination est avant tout un rejet de l'altérité, où l'autre, le féminin, ou le musulman, le juif, ou l'athée, le vieux, le pauvre, représente une menace. Le propre des totalitarismes, c'est cette haine profonde de l'altérité, haine d'autant plus profonde et pérenne qu'on est enfermé dans la croyance en une identité homogène et immuable. Et c'est pourquoi les totalitarismes ont toujours tenté de réduire la femme à la mère et son sexe à son vagin. Or, rares sont ceux qui, depuis la nuit des temps, ont pensé et surtout agit autrement. Le rejet du féminin est au fondement de la plupart des sociétés, y compris libérales, parce que les hommes sont trop paresseux pour penser l'altérité et que le sexe, en latin « séparé », inscrit pour chacun et en chacun une altérité radicale. Rien n'interdit de penser que ce rejet viscéral du féminin, ce rejet de ce qui n'est pas du même, s'articule à une homosexualité refoulée, laquelle se trouve, à son tour, persécutée par tous les fascismes, qu'ils soient manifestes ou latents. I've got big balls, I've got big...